Chapitre 7. Connemara central. En comptant Manmut, il y avait 5 Moravec galiléens dans la salle de réunion pressurisée aménagée au-dessus de la dalle. Ils connaissaient l'Européen, Astig Tché, l'intégrateur prime basé à Pouil, mais les 3 autres étaient encore plus étranges que des Kraken à ses yeux de provincial. Le Ganymédéen était grand et élégant, comme tous ses semblables, d'une morphologie humanoïde qui frisait l'atavisme, avec des yeux à facettes et une combi en fulraine noire. Le Calistan était proche de Manmut par sa taille et sa conception, long d'un mètre, à peine humanoïde, pourvu d'une peau synthétique et même d'une chair organique sous son derme de polyamide transparent, d'une masse de 30 kilos au maximum. L'Ionien était impressionnant. C'était un Moravec poids lourd d'un modèle antique, conçu pour résister aux tors de plasma et aux geysers de soufre, qui mesurait 3 mètres de haut et 6 mètres de long, et dont la forme évoquait une limule. Une carapace pesante, hérissée d'une myriade d'appendices, de palpeurs, de lentilles, de flagelles, de capteurs à spectre large et de manipulateurs en tout genre. De toute évidence, cet être était rompu au vide spatial. La surface de son armure avait subi tellement de micro-impacts, puis de séances d'abrasion, qu'elle était aussi vérolée que celle d'Io. Dans cette salle pressurisée, il utilisait de puissants répulsifs de source pour ne pas creuser le sol. Manmut décida de garder ses distances, choisissant un emplacement opposé au sien par rapport à la dalle de communion. Comme aucun des participants ne se présentait, par faisceau cohérent ou par infrarouge, Manmut décida de suivre leur exemple. Il se connecta au cordon nourricier de sa niche, susauta et attendit. Bien qu'il aimât respirer quand il en avait l'occasion, il avait été surpris de se retrouver dans une salle pressurisée à 700 hectopascales, d'autant plus que ni le Ganymédéen ni l'Ionien n'avaient de capacité respiratoire. Puis Astig Tché commença à communiquer au moyen de micromodulations d'ondes mécaniques dans l'atmosphère. En d'autres termes, il se mit à parler, et en anglais de l'air perdu qui plus est. Et Manmut comprit que la salle était pressurisée pour des raisons de sécurité et non de confort. La parole était la forme de communication la plus sûre dans le système galiléen, et même l'Ionien, ce travailleur du vide en armure spatiale, était équipé pour la pratiquer. « Je tiens à vous remercier tous d'avoir interrompu vos tâches respectives pour venir ici aujourd'hui. » déclara l'intégrateur prime de Pouil. En particulier ceux qui sont venus d'autres mondes que celui-ci. Je suis Astig Tché. Soyez les bienvenus, Koros III de Ganymède, Ripo de Callisto, Manmut du projet cartographie du pôle sud d'Europe et Orphu d'Io. Manmut passa par un cycle de surprises, puis ouvrit un canal de communication privé.
Orphu d'Io? Serais-tu mon correspondant shakespearien de longue haleine, Orphu d'Io?
En effet, Manmut. Enchanté de te rencontrer, mon cher ami.
Comme c'est étrange! Quelles étaient les chances pour que nous nous retrouvions un jour dans la même pièce, Orphu?
Cela n'a rien d'étrange, mon ami. Quand j'ai appris que tu allais être invité à participer à cette expédition suicide, j'ai insisté pour la rejoindre.
Expédition suicide?
Plus de 50 années joviennes, soit 600 années terriennes, que nous avons perdu le contact avec les post-humains, disait Astig Tché. Et nous ne savons plus ce qu'ils manigancent. Cela nous inquiète. Il est temps d'envoyer une expédition vers l'intérieur du système, vers notre foyer premier, afin de déterminer le statut actuel de ces créatures et de voir si elles représentent une menace pour les Galiléens. Il marqua une pause. Nous avons des raisons de soupçonner que c'est le cas. Derrière l'intégrateur européen se trouvait une baie vitrée qui montrait Jupiter traversant le firmament au-dessus des champs glaciaires, et elle s'opacifia pour afficher les planètes et les lunes tournant majestueusement autour du lointain soleil. Zoom sur le système formé par la Terre, la Lune et les anneaux. Au fil des 500 dernières années, l'activité n'a cessé de décroître sur les spectres radio, gravitoniques et neutriniques des anneaux polaires et équatoriales des PH, reprit Astig Tché. Elle est carrément nulle depuis un siècle. Sur la terre proprement dit, on n'en décèle que des traces résiduelles, sans doute attribuables à l'activité robotique.
Est-ce que le petit groupe d'humains originels existe toujours ?
Demanda Ripo le Calistan. Nous l'ignorons, répondit Astikche. L'intégrateur passa une main devant la console universelle et une image de la Terre envahit la baie vitrée. Manmut cessa de respirer. Les deux tiers de la planète étaient éclairés par le soleil. On apercevait des océans bleus et quelques traces de continents marrons sous la masse mouvante des nuages blancs. Manmut n'avait jamais vu la Terre avant ce jour et l'intensité des couleurs était quasiment bouleversante.
Est-ce une image en temps réel ?
Demanda Koros III.
Oui. Le consortium des cinq lunes a construit un petit télescope spatial à proximité de l'onde de choc magnétosphérique jovienne. Ripo était impliqué dans ce projet.
Je m'excuse de la mauvaise résolution de l'image,
intervint le Calistan.
Cela faisait plus d'un siècle jovien que nous avions renoncé à l'astronomie visuelle, et ce projet a été mené dans la précipitation.
Y a-t-il des signes des originels?
Sans qui Orfu Dio ?
Les descendants de ton Shakespeare,
ajouta-t-il à l'intention de Manmut.
Un résultat inconnu,
répondit Astikche.
La résolution maximale est d'environ 2 kilomètres et nous n'avons détecté aucun signe des humains originels ou de leurs artefacts, exception faite des ruines déjà répertoriées. Il y a bien une activité neutrinique de type fax, mais peut-être est-elle automatique ou résiduelle.
À vrai dire, ce ne sont pas les humains qui nous intéressent pour le moment. Ce sont les post-humains.
Mon Shakespeare ? Tu veux dire notre Shakespeare ?
Répondit Manmut Alionien.
Ah, désolé, Manmut. En dépit de l'amour que m'inspirent les sonnets du barde, et même son théâtre, mon intérêt s'est toujours concentré sur Proust.
Proust ? Cette esthète ? Tu plaisantes ?
Point du tout.
Le spectre subsonique du faisceau cohérent résonna d'un grondement que Manmut interpréta comme le rire de l'Ionien. L'intégrateur afficha des images montrant quelques-uns des millions d'habitats orbitaux tournant autour de la Terre. Nombre d'entre eux étaient blancs, quelques-uns argentés. En dépit de l'éclat que leur conférait le soleil relativement proche, ils semblaient étrangement froids et vides.
Aucune navette, aucune trace d'échange fax entre les anneaux et la Terre. Quant au convoi de matériaux lourds transitant entre les anneaux et Mars, observé il y a à peine 20 années joviennes, soit 240 et quelques années terriennes ou annulaires, ils brillent désormais par leur absence. Vous pensez que les post-humains ont disparu,
sans qui Koros III ?
Qu'ils sont tous morts ? Ou qu'ils ont tous migré ?
Nous savons qu'il est intervenu un changement fondamental dans leur politique énergétique, dans les domaines chronoclastiques, quantiques et gravitationnels, répliqua l'intégrateur. Il était plus grand et un peu plus humanoïde que Manmut, caparaçonné dans une armure protectrice jaune vif. Sa voix était douce, posée, mélodieuse mais précise.
Tournons-nous à présent vers Mars, dit-il.
L'image de la quatrième planète emplit la baie vitrée.
Manmut ne s'intéressait que vaguement à Mars et n'en connaissait que des images datant de l'ère perdue.
La planète qu'il découvrait à présent n'avait aucun rapport avec les photos et les holos de cette époque. Jadis de couleur rouille, Mars était recouverte par les eaux sur la majorité de son hémisphère nord. Valles Marineris étant désormais un fleuve large de plusieurs kilomètres se jetant dans l'océan. Quant à l'hémisphère sud, s'il demeurait en grande partie ocre ou marron, il était néanmoins tacheté de vert. Les volcans de Tarsis dessinaient toujours une procession allant du sud-ouest au nord-est, avec un plumet de fumée visible au-dessus de l'un d'eux, mais Olympus Mons se dressait désormais à une vingtaine de kilomètres d'une gigantesque baie s'ouvrant sur l'océan boréal. Des amas de nuages blancs se groupaient sur la moitié diurne de l'image et on voyait briller des lueurs près du bassin d'Hélas, par-delà la limite du Terminateur. Manmut distingua un ouragan filant au nord, vers la côte de Chrysplanitia.
« Ils l'ont terraformé ? »
dit-il à voix haute.
« Les postes ont terraformé Mars ?»
Quand ?
demanda Orfudio.
Personne chez les Galiléens ne s'intéressait à Mars, ni à aucun des mondes intérieurs, d'ailleurs, sauf pour ce qui était de leur littérature, de sorte que l'événement avait pu se produire à n'importe quel moment ayant suivi la rupture entre l'humanité et les Moravec, survenue 2500 années terriennes auparavant.
« Il y a moins de 200 ans, » répondit Astikché, « peut-être moins de 150. »«
Impossible !» affirma Coros III d'un ton ferme. « Mars n'a pas pu être terraformé en aussi peu de temps. »«
Je suis d'accord, c'est impossible, » rétorqua Astikché. Mais c'est pourtant vrai.
Donc, les postes ont migré là-bas, dit Orfudio.
Ce fut Ripo qui lui répondit.
Nous ne le pensons pas. La résolution que nous obtenons sur Mars est supérieure à celle que nous avons sur la Terre. Par exemple, le long des côtes.
La baie vitrée monta une région située autour d'une péninsule biscornue, au nord de la zone où les fleuves formant Valles Marineris, en fait on aurait pu parler d'une véritable mer intérieure, se jetaient dans une baie, franchissaient un isthme, puis se dispersaient dans l'océan boréal.
Zoom.
Tout le long de la côte, à la frontière entre mer et terre, qu'on ait affaire à un désert rouge ou à des plaines verdoyantes parsemées de forêts, se déroulait un alignement de taches noires.
Nouveau et ultime zoom.
S'agit-il de sculptures ?
Demanda Manmut.
Des têtes de pierre, pensons-nous, dit Ripo.
L'image bascula, et l'heure ayant changé, l'ombre de l'une des taches laissait apparaître un front, un nez, un menton volontaire.
Ridicule, trancha Coros III. Il faudrait des millions de statues de l'île de Pâques pour faire le tour de l'océan boréal.
« Nous en comptons 4 203 509,
répliqua Astikché.
Mais leur construction n'est pas achevée. Observez cette photo prise il y a quelques mois, alors que Mars était dans sa position la plus favorable.
Une myriade de minuscules silhouettes floues tirait une grande tête de pierre montée sur roue. Son visage était tourné vers le ciel. Ses yeux ombrés fixaient le télescope. Les minuscules travailleurs semblaient attachés à elle par une multitude de câbles, et Manmut pensa à des esclaves égyptiens tirant un bloc destiné à la construction d'une pyramide.
« Humain ou robot ?»
s'enquit Orfu.
« Ni l'un ni l'autre, à notre avis, » répondit Ripo. « La taille n'est pas la bonne. Remarquez aussi la couleur, telle qu'elle est indiquée par l'analyse spectrographique. »«
Ils sont verts ?»
demanda Manmut, qui ne goûtait les énigmes que si elles étaient littéraires.
« Des robots verts ?»« Ou une espèce de petits humanoïdes verts inconnus à ce jour ?»
répliqua Astikché le plus sérieusement du monde. Orfudio fit résonner son rire subsonique.
« Des PHV !»
dit-il à haute voix. Manmut lui transmit une interrogation.
Des petits hommes verts,
répliqua Orfudio sur le canal général, émettant un nouveau rire.
Pourquoi avons-nous été convoqués ici?
Demanda Manmut à Astikché.
En quoi cette terraformation nous concerne-t-elle?
L'intégrateur restitua sa transparence à la baie vitrée. Les bandes de Jupiter et les plaines de glace crépusculaires d'Europe semblaient bien ternes, bien moroses après ces bleus et ces blancs si vibrants venus du système intérieur.
Nous dépêchons sur Mars une équipe afin qu'elle enquête et nous envoie son rapport,
dit Astikché.
Vous quatre avez été choisis pour la former. Vous avez encore la possibilité de refuser.
Silence absolu sur tous les canaux de communication.
J'ai parlé d'envoyer un rapport, mais pas nécessairement de revenir,
poursuivit l'intégrateur prime.
Nous n'avons aucun moyen de vous rapatrier dans le système jovien. Veuillez me transmettre un signal si vous ne souhaitez pas participer à cette mission.
Toujours le silence.
Bien,
fit l'intégrateur européen.
Dans quelques minutes, vous pourrez télécharger les données complètes de l'expédition. Mais je vais dès à présent vous en donner un aperçu. Nous utiliserons le submersible de Manmut pour l'enquête sur zone.
Ripo et Orfu procéderont à une cartographie orbitale pendant que Manmut et Koros III descendront sur la surface. Nous nous intéressons plus particulièrement à ce qui se passe autour d'Olympus Mons, le plus grand des volcans. Nous y avons décelé une activité quantique aussi massive qu'inexplicable. Manmut déposera Koros III sur la côte, et notre ami Ganymédéen partira en reconnaissance.
Grâce à ses archives autant qu'à ses lectures, Manmut savait que les humains de l'ère perdue s'éclaircissaient la gorge pour exprimer leur désir d'interrompre un discours. Il émit le bruit correspondant.
Veuillez excuser ma stupidité. Mais comment allons-nous faire pour transporter la Dame Noire, mon submersible, sur Mars ?
Cette question n'est nullement stupide, répliqua l'intégrateur. Orfu Dio ?
La gigantesque limule se déplaça sur ses répulsifs afin de tourner vers Manmut diverses lentilles noires.
Cela fait des siècles que nous n'avons rien expédié dans le système intérieur. Et si nous devions employer les méthodes classiques, le voyage prendrait la moitié d'une année jovienne. Nous avons donc décidé de recourir aux ciseaux.
Ripo s'agita dans sa niche.
Je croyais que les ciseaux ne devaient être utilisés que pour l'exploration interstellaire.
Le consortium des cinq lunes a décidé que cette mission était prioritaire,
rétorqua Orfu Dio.
Je présume que nous embarquerons à bord d'un vaisseau, dit Koros III, à moins que vous n'ayez l'intention de nous expédier l'un après l'autre, tout nus, comme des poulets lancés par un trébuchet.
Le grondement subsonique d'Orfu emplit la salle. De toute évidence, il appréciait l'image choisie par Koros. Manmut dut accéder au réseau général. Un trébuchet était une machine de guerre humaine de l'ère perdue, civilisation de niveau 2. Précédant l'invention de la machine à vapeur. Purement mécanique, mais plus puissante qu'une catapulte, capable de lancer des projectiles relativement lourds sur une distance d'un ou deux kilomètres.
Nous avons effectivement un vaisseau, dit Astikche. Il a été conçu pour atteindre Mars en quelques jours et configuré pour accueillir le submersible de Manmut. Il est en outre équipé d'un système permettant d'envoyer la Dame Noire, le submersible de Manmut, dans une atmosphère planétaire.
Atteindre Mars en quelques jours, répéta Ripo. Quels sont les facteurs delta V à l'issue de la sortie du tube de flux d'IO?
Un peu moins de 3000 G, dit l'intégrateur. Échelle terrienne.
Manmut, qui ne connaissait que la pesanteur d'Europe, égale à 1/7 de G, s'efforça d'imaginer une force 21 000 fois supérieure. En vain.
Au cours de la phase d'accélération, l'intérieur du vaisseau et celui de la Dame Noire seront remplis de gel,
expliqua Orfu Dio.
Nous serons aussi douillettement installés que des circuits électroniques dans leur moule de gélatine.
De toute évidence, Orfu avait participé à la préparation du vaisseau et Ripo à l'observation des deux planètes. Selon toute probabilité, Koros III avait été avisé du commandement qui allait lui échoir. Il n'y avait que lui, Manmut, qui avait été tenu à l'écart des préparatifs, sans doute parce que son rôle, piloter la Dame Noire dans les océans martiens, était sans grande importance. « Peut-être devrais-je déclarer forfait après tout », se dit-il.
« Proust !»
lança-t-il au grand Ionien.
« Dommage que nous n'allions pas sur Terre, mon ami. » Nous pourrions visiter Stratford en Avon et ramener une chope en guise de souvenir.
La plaisanterie n'était pas nouvelle, mais étant donné le contexte, elle semblait à nouveau du plus haut comique. Manmut transmit une imitation passable du rire d'Orfu, lequel réagit par un grondement si titanesque qu'il fut audible aux quatre autres Moraveks. Ripo, lui, ne riait pas. Il calculait.
Une telle propulsion nous donnerait une vélocité initiale d'un peu moins de 2/10 de la vitesse de la lumière, et même à l'issue d'une décélération drastique par collecte magnétique une fois dans le système intérieur, nous aurions une vélocité d'approche d'environ 1/1000 de C, soit un peu plus de 300 km/s. Nous arriverons à proximité de Mars dans un délai très bref, même si elle se trouve de l'autre côté du Soleil, comme en ce moment. Mais a-t-on réfléchi à la manière dont nous pourrons ralentir une fois là-bas ?
Oui, fit Orfu Dio en se calmant quelque peu. Nous y avons réfléchi.
Même à l'issue de 30 années joviennes d'existence, Manmuth n'avait pas d'adieu à faire sur Europe. Hurtsveil, son partenaire en exploration, avait été détruit 18 années J plus tôt suite à la brusque fermeture d'un chenal près du cratère de Pouil, et depuis lors, Manmuth ne s'était rapproché d'aucune entité consciente. 16 heures après la réunion, Connemara Central ordonna à des porteurs orbitaux spécialisés de cueillir la Dame Noire et de l'envoyer en orbite où des Moravec adaptés au vide spatial, travaillant sous la supervision d'Orfu Dio, l'embarquèrent à bord du vaisseau martien, laissant ensuite d'antiques convoyeurs interlunaires à induction acheminer l'ensemble jusqu'à Io. Manmuth et ses trois équipiers avaient brièvement envisagé de donner un nom à leur bâtiment, mais l'imagination leur avait fait défaut, l'envie leur avait passé et, par la suite, ils se contentèrent de l'appeler le vaisseau. Comme la plupart des spationefs construits par les Moravec depuis l'avènement du voyage spatial, celui-ci ne satisfaisait guère au canon classique de l'élégance. Long de 150 mètres, il se composait en majorité de poutres en fulrène, enveloppées de feuilles anti-radiation fripées, là où il fallait protéger modules, sondes semi-automatiques, antennes de tout type, capteurs et câbles. Il différait surtout des engins de l'espace jovien par son dipôle magnétique étincelant et ses déflecteurs en saillie. Son groin massif abritait 4 fusiopropulseurs et 5 trompes du collecteur Matloff-Fenelly. Côté poupe, un bulbe de 10 mètres de large contenait la voile en bord replié. Ni celle-ci, ni le collecteur ne seraient utilisés avant la phase de décélération et les fusiopropulseurs seraient également inactifs durant la phase d'accélération. Manmuth resta à l'intérieur de la Dame Noire, maintenant bourrée de gel, tandis que Koros III et Ripo s'installaient à 60 mètres de là, dans le module de contrôle de proue qu'ils avaient baptisé « Passerelle ». Ripo était censé s'occuper de toutes les tâches d'astrogation durant leur folle virée, Koros III étant quant à lui commandant en titre de l'expédition. Le Ganymédéen devait en outre embarquer à bord du submersible une fois que le gel en aurait été évacué, et avant qu'il ne soit largué dans l'atmosphère martienne. Une fois à pied d'œuvre, Manmuth ferait office de chauffeur, conduisant son commandant au point qu'il aurait choisi pour entamer sa mission d'espionnage en milieu terrestre. Koros avait téléchargé quantité de données relatives à la mission qui ne concernait pas Manmuth. Orfu Dio avait pris place dans un berceau creusé dans la coque extérieure, derrière les 10 tors solénoïdaux et devant les prises de câbles de la voile, et toutes sortes de canaux, voies, données, comme, le reliaient à la passerelle et au submersible. Le plus gros de ces conversations non techniques était réservé à Manmuth.
Ta théorie sur la construction dramatique des sonnets me paraît d'un très grand intérêt, mon ami. J'espère que nous vivrons assez longtemps pour que tu analyses une partie substantielle du cycle.
Mais Proust ! Répondit Manmuth. « Pourquoi Proust, quand on peut passer son existence à étudier Shakespeare ?»
Proust était sans doute le plus grand explorateur du temps, de la mémoire et de la perception, répondit Orfu.
Manmuth émit un grésillement de parasite. L'ionien Burinet fit entendre son grondement sur la ligne audio.
« Il me tarde de te convaincre que les deux sont également passionnants. » Et instructif, ami Manmuth.
Le message de Koros III arriva sur le canal général.
Peut-être souhaiterez-vous élargir votre bande passante sur le visuel. Nous approchons du tor de plasma d'Io.
Manmuth ouvrit toutes les arrivées visuelles, comme on l'y incitait. Il préférait observer les événements extérieurs par l'entremise des lentilles d'Orfu Dio, mais pour le moment, c'était les caméras de proue du vaisseau qui captaient les images les plus intéressantes, et pas nécessairement dans le seul spectre visible. Ils accéléraient vers la face d'Io, ce grand disque tacheté de jaune et de rouge, suivant une trajectoire courant en dessous du plan de l'écliptique et se préparant à survoler le pôle nord de la Lune avant de filer vers le tube de flux Jupiter-Io. Depuis leur départ d'Europe, Orfu et Ripo avaient téléchargé des informations relatives à ce secteur de l'espace jovien. Européens de souche,
Manmuth s'était toujours focalisé sur le sonar et le spectre visuel pour sillonner les océans enténébrés, mais il percevait désormais la magnétosphère jovienne telle qu'elle était, à savoir un espace plein de bruit et de fureur. Grâce aux ondes radio décamétriques, il voyait le tore de plasma d'Io d'une épaisseur égale à celle de Jupiter, et perpendiculairement à ce tore, le tube de flux d'Io dessinant une paire de cornes, dont les extrémités étaient plantées dans les pôles joviens. Loin au-delà de la géante gazeuse et de ses lunes, par-delà la magnétopause, Manmuth sentait la turbulence de cet arc s'écraser comme des vagues écumantes sur un récif caché, entendait en amont les ondes de Langmuir chantant dans les ténèbres magnétiques et distinguait même en acoustique les ondes ioniques qui crépitaient après leur long voyage depuis le Soleil. Vu de l'espace jovien, celui-ci n'était guère qu'une étoile très brillante. À présent que le vaisseau survolait Io pour s'insérer dans le tube de flux, Manmuth entendait le mélange de whistlers et de sifflements que produisait la petite lune en labourant son propre tore de plasma, en se mordant la queue pour ainsi dire. Il arrivait à voir les larges bandes d'émission équatoriale et devait atténuer les rugissements radio, décamétriques et kilométriques provenant du tube de flux. L'espace galiléen tout entier était un chaudron de rayonnement cosmique et d'activité électromagnétique. Manmuth avait passé toute son existence avec ce genre de bruit de fond. Mais le passage du tore au tube si près de Jupiter eut pour conséquence de soumettre leur vaisseau à des déferlantes d'électrons aussi bruyantes que des banshees exigeant qu'on leur ouvre la porte d'une maison maudite. C'était une nouvelle expérience pour lui, et il la trouva quelque peu perturbante. Puis ils s'insérèrent dans le tube de flux. Koros III leur cria « Tenez bon !» et un rugissement d'ouragan satura la bande audio. Le tore de plasma d'Io était un gigantesque pneu de particules chargées apparaissant dans le sillage de dioxyde de soufre, de sulfure d'hydrogène et d'autres gaz régurgités, puis à nouveau ingurgités par la violente lune d'Orphu. À mesure qu'Io faisait le tour de Jupiter en 1,77 jours, fendant le champ magnétique de la géante gazeuse et labourant son propre tore de plasma, elle générait un fabuleux courant électrique entre Jupiter et elle, un cylindre bicorne aux poussées magnétiques incroyablement concentrées, appelé le tube de flux d'Io. Ce tube était connecté aux deux pôles de Jupiter, où il créait de splendides aurores boréales, tandis que les cornes transportaient en permanence un courant de 5 mégaampères et produisaient une énergie supérieure à 2 billions de watts. Quelques décennies plus tôt, le consortium des cinq lunes avait décidé qu'il serait criminel de gaspiller une telle énergie. Manmuth entrevit le pôle nord d'Io. Les panaches de soufre éjectés par divers volcans, en particulier Prométhée, situé près de l'équateur, s'élevaient jusqu'à 140 km au-dessus de la surface vérolée, comme si la lune violente leur lançait des projectiles, cherchant à les arrêter avant qu'ils aient atteint le point de non-retour. Trop tard. Ils y étaient déjà. Sur le canal vidéo général, le programme d'astrogation de Ripo, superposé aux images provenant de la proue, montrait leur insertion dans le tube de flux, ainsi que l'alignement projeté avec les ciseaux. Jupiter fondait sur eux, emplissait leur champ visuel tel un ballon strié de bandes multicolores. Les lames des ciseaux, cet accélérateur magnétique rotatif et à deux bras, enchâssé dans l'accélérateur de particules naturelles qu'était le tube de flux d'Io, était longue de 8000 km, un chiffre minuscule comparé aux 500 000 km et quelques de la courbe reliant le pôle nord d'Io à celui de Jupiter. Mais ces ciseaux pouvaient bouger. Comme Orphu d'Io l'avait expliqué à Manmuth,
« Le mouvement angulaire peut être d'une multiple splendeur, mon petit ami. »
En arrivant à proximité d'Io et du tube de flux, le vaisseau abritant le submersible si cher à Manmuth, bien que bénéficiant d'une propulsion ionique atteignant à peine la vitesse de 24 km/s, soit moins de 86 000 km/h. S'il conservait cette allure, il lui faudrait plus de 4 heures pour parcourir le tube de flux entre Io et Jupiter et plusieurs années-thées pour rallier Mars. Mais ses occupants n'avaient aucune intention de poursuivre à ce rythme. Le vaisseau pénétra dans le champ agité, crépitant, rugissant du tube de flux, localisa le vortex des ciseaux, s'aligna sur la lame supérieure et, tirant parti des propriétés accélératrices du tube, propulsa le solénoïde qu'il était à travers l'accélérateur dipolaire supraconducteur d'un diamètre de champ s'élevant à 5 km. Dès que le vaisseau franchit la première porte, évoquant l'image d'une boule de croquet passant à travers le premier de plusieurs milliers d'arceaux, la lame des ciseaux accélérateurs commença à s'ouvrir avec un différentiel de vélocité angulaire approchant, et même dépassant théoriquement, la vitesse de la lumière. C'était comme si le spationef était propulsé par coups de fouet successifs, exploitant au maximum ses fameux 2 millions de watts d'énergie. En 2,6 secondes, le vaisseau et ses occupants passèrent de 0G à un peu moins de 3000G. Jupiter disparut en un clin d'œil. Manmuth régla tous ses moniteurs sur ralenti afin de mieux savourer leur départ.
« Yahoo !»
s'écria Orfu depuis la coque extérieure. Vaisseaux spatial et submersible gémirent, craquèrent, grognèrent et gémirent sous l'effet des jets. Mais l'un comme l'autre était robuste. La Dame Noire était conçue pour résister aux pressions des profondeurs océanes d'Europe, soit plusieurs millions de kilogrammes par centimètre carré. Et on pouvait en dire autant des Moravec.
« Bordel de merde !»
fit Manmuth. Il destinait ce commentaire au seul Orfu Dio, mais se débrouilla pour l'envoyer aussi aux deux autres.
« En effet !»
répondit Ripo. Les bouillonnantes lueurs polaires de Jupiter, un ovale auroral entourant le pôle nord de la géante gazeuse, sur lequel Io imposait son empreinte flamboyante, là où le tube de flux entrait dans l'atmosphère, passèrent en un éclair, puis s'évanouirent derrière la poupe. Ganymède, distant d'un million de kilomètres quelques secondes plus tôt, fonça sur eux, passa comme un éclair et disparut à la vue.
« Uruxulcus !»
dit Coros III sur le canal général. Pendant quelques instants, Manmuth crut que le Moravec commandant l'expédition jurait ou s'étouffait. Puis il remarqua que sa voix d'ordinaire plutôt froide avait des accents émus et comprit qu'il faisait sans doute allusion à une région de Ganymède, cette boule de neige sale et cannelée qu'il venait d'entrevoir, d'où il était peut-être originaire. La minuscule Himalaya, une lune qu'aucun d'eux n'avait jamais visitée, ni envisagé de le faire, fila à son tour aussi vive qu'une luciole à la crinière en flamme.
« Nous venons de passer l'onde de choc magnétosphérique !»
rapporta Ripo de sa voix à l'accent calistan.
« En ce qui me concerne, c'est la première fois que je sors de l'espace local. »
Manmuth consulta ses écrans. D'après les indications de Ripo, ils avaient parcouru l'équivalent de 53 diamètres joviens et continuaient d'accélérer. Manmuth dut ouvrir des banques de mémoire inusitées pour découvrir que le diamètre de Jupiter était égal à 142 000 km, ce qui lui permit de se faire une idée plus précise de leur vitesse. Leur vaisseau décrivait une parabole au-dessus du plan de l'écliptique, mais le but de la manœuvre, se rappela-t-il, était d'utiliser l'attraction gravitationnelle du Soleil pour orienter leur trajectoire vers Mars, laquelle se trouvait de l'autre côté de l'astre en ce moment. Quoi qu'il en soit, ils n'avaient pas à se soucier d'astrogation. On ferait appel à lui une fois qu'ils auraient gagné l'océan martien, où la navigation s'annonçait comme fort simple. La lumière y était riche, la température élevée, les profondeurs quasi inexistantes et la pression idem. Le ciel était empli d'étoiles favorisant la navigation, sans parler des satellites d'aéropositionnement qu'ils ne manqueraient pas de mettre sur orbite, et le taux de rayonnement était ridicule comparé à celui d'Europe. Et il n'y avait pas de Kraken sur Mars. Pas de glace non plus. Pas de glace. C'était trop beau pour être vrai. Certes, si les postes humains se révélaient hostiles, il y avait de grandes chances pour que les Moravec ne survivent pas à leur périple, voire à leur entrée dans l'atmosphère martienne et, même dans le cas contraire, il était très peu probable qu'ils regagnent un jour l'espace jovien. Mais Manmuth ne pouvait rien y faire pour le moment. Ses pensées se portèrent à nouveau sur le sonnet 127.
« Tout le monde va bien ?»
demanda Coros III. Tous répondirent que tout allait pour le mieux. Il fallait davantage que quelques milliers de jets pour abattre un tel équipage. Le moral était au beau fixe. Ripo commença à transmettre des données d'astrogation et d'astrographie, mais Manmuth n'y prêta pas attention. Il était déjà capté par le champ d'attraction du sonnet 127, le premier de la série de la Dame Noire.